De retour en studio avec Catherine Beauchamp et notre invité, Patrice Godin. Salut.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, toi-même?
Super.
La vie va bien, je pense, pour toi.
Ces temps-ci, j'ai pas à me plaindre. Non, tout va très bien.
Hey, Patrice, tu viens ici nous parler, première des choses, du défi pour arrêter de fumer.
Semaine sans tabac, ouais.
Ouais, semaine sans tabac. T'étais un gros fumeur avant?
J'ai fumé pendant 25 ans.
C'est incroyable quand même, parce que je sais que tu fais des super marathons, là, des ultra-marathons. Ouais. Raconte-nous quand même le déclic. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter de fumer?
Ben écoute, premièrement, j'ai commencé à fumer à 13-14 ans, dans les années 80.
Alors, ado, là.
Ado. Mais tu sais, je veux dire, dans les années 80, là, tout le monde fumait, ou presque.
T'as quel âge?
Je vais avoir 52.
OK, bon, on est à peu près de la même génération. Là. Moi, je me souviens, je sais pas si c'est encore comme ça, des polyvalentes, mais... Tu parles de 13-14 ans. Quand j'avais 13-14 ans, là, à la polyvalente, là, c'était hallucinant. Je pense qu'il y en a un sur deux qui fumait.
Oui.
L'autobus, on fumait.
Moi, je fumais dans l'autobus.
Ça fumait dans le bus. Écoute, moi, j'ai décidé, Patrice, de commencer à marcher pour aller à l'école. J'étais écœuré.
Toi, t'as jamais fumé.
J'ai jamais fumé. Il y a des fumeurs dans ma famille, ça m'écœurait. Mais toi, fumer à l'époque, c'était le produit d'une culture.
Ben oui, puis c'était... moi, je trouvais ça cool, ça avait l'air cool. Mes acteurs préférés fumaient.
Mais il y avait quelque chose de sexy aussi.
Il y avait quelque chose de... La cigarette était vendue comme quelque chose de viril, de sexy, de badass un peu. Et c'était toute cette affaire-là. Puis honnêtement, je me suis mis à aimer ça. J'aimais ça au début, naturellement, les premières fois, je me suis étouffé, puis comme tout le monde. Là, mais je me suis mis à aimer ça. Puis dans ma famille, il y avait quand même pas mal de fumeurs et je suis tombé là-dedans, puis à cette époque-là aussi, on disait une maladie qui était associée à la cigarette, c'était juste le cancer du poumon. Fait que là, tu te disais, bon, ben, tu sais, mourir de ça ou mourir de d'autres choses, c'est niaiseux. Quand t'as 15 ans,
c'est niaiseux.
Et on sait maintenant que c'est pas vrai, là. La majorité des cancers sont la cigarette, le tabac est relié à la majorité des cancers, des maladies cardiaques aussi, 36 maladies cardiovasculaires qui sont associées au tabac. Moi, quand je suis arrivé au début des années 2000, j'ai fait des grosses crises d'anxiété qui étaient... en fait, je faisais des crises de panique, puis je pensais que je faisais des crises cardiaques. Fait que ça va pas bien. T'sais, quand tu fais une crise de panique parce que tu veux pas prendre l'avion, ben t'évites de prendre l'avion. T'aimes pas les ascenseurs, tu prends pas les ascenseurs, mais si t'as peur de faire des crises cardiaques, tu fais quoi? Tu vis avec... T'as l'impression d'avoir une bombe à retardement. Alors, je me suis comme... J'ai fait des tests pour voir si j'avais des problèmes. Comme je suis adopté, j'avais pas d'antécédents familiaux. Je pouvais pas avoir de
tu peux pas savoir de si repères, ton père, ta mère...
J'avais pas de repères. Alors, je suis allé voir des médecins spécialisés. Moi, je voulais des enfants avec ma blonde. Donc, j'ai réglé ce volet-là. Et j'ai tranquillement entrepris de travailler mentalement à décrocher de la cigarette.
Mais... T'as fumé extrêmement longtemps, écoute, de 14 ans jusqu'à l'aube de tes 40 ans.
Jusqu'à 40 ans.
C'était quoi le déclic où tu te dis, OK, il faudrait que j'arrête?
Ben, ça a été ça. Ça a été d'abord de me remettre en forme, de me remettre en santé à la mi-trentaine. J'ai eu ma première fille, j'ai trois filles. Les deux premières m'ont connu, ils s'en souviennent pas, ils étaient petites, mais ils m'ont connu fumeur. Ma dernière m'a pas vu. Ça faisait un an que j'avais arrêté quand elle est venue au monde. Mais quand Julia avait 5 ans, Simone avait 3 ans, à un moment donné, on est allé au Mexique. On est revenu. Et j'avais ramené des cigarettes de là-bas, j'avais ramené 3-4 paquets. Puis le dernier paquet, elle m'a vu l'ouvrir, c'était la semaine de relâche. Je m'en allais fumer dehors, j'ai ouvert le paquet, puis j'ai dit ça, ma chouette, c'est le dernier paquet que je vais ouvrir. Après ça, j'arrête. Et j'ai tenu promesse.
Pourquoi? Parce que ta fille t'a regardé...
Ben parce que ma fille, à un moment donné, je les ai vus. Non, mais les autres, tu sais, c'était papa, il fume, puis je fumais dehors, je fumais pas dans la maison. J'essayais de pas trop fumer devant elle, mais elle me voyait fumer. Puis à un moment donné, je les avais vus à 4 puis 2 ans jouer dehors avec des bouts de bois, puis dit, gars, papa, on fume. Ça. À partir de là, je pense que ça a été le gros déclic. Ouais. Et j'ai fait la promesse à mes filles. Ça a été le dernier paquet. Puis à partir de là, ben, je me suis mis vraiment à courir.
Est-ce que tes filles fument?
Non.
As-tu eu peur que tes filles fument?
Eu peur. Écoute, je sais que ma grande, elle a essayé comme beaucoup d'ados. Puis ça fait partie des expériences. Puis j'en ai parlé. Puis je ne veux pas être non plus... Un ayatollah anti-cigarette ou quelqu'un qui fait la morale ou qui... Mais c'est sûr que les jeunes, quand je les vois fumer, ça me désole un peu. Ils ont beaucoup moins de raisons qu'on avait à l'époque, même si...
Moi, mon chum fume, là, je dois dire, puis a arrêté deux fois, puis a recommencé deux fois. T'sais, ça arrive souvent, cette histoire-là.
J'ai arrêté une dizaine de fois. Là.
Ma mère, je pense qu'elle me disait à peu près, je sais pas combien de fois, j'arrête, là, c'est terminé. Qu'est-ce qui fait qu'on recommence pas?
Ben c'est un engagement qu'il faut prendre avec soi-même puis avec les gens autour de nous. moi, de faire la promesse comme ça à ma fille, qui s'en souvient plus, j'en ai reparlé récemment, parce que je me souviens pas de ça, mais moi, je m'en souviens. Mais puis tu sais, c'est une promesse que tu fais à tes enfants. Alors déjà là, puis aussi de voir juste en dehors de ça, d'avoir des enfants, c'est de dire ben moi je veux vieillir en santé pour les voir grandir, pour être là quand elles vont être grandes, puis quand elles vont avoir des enfants, si je vais être, j'aimerais ça pouvoir prendre mes petits-enfants dans mes bras. J'aimerais ça être un grand-papa en santé qui peut jouer avec mes petits-enfants, de pas être obligé de me promener avec une machine pour respirer ou d'avoir eu des pontages ou avoir un... Donc, tu sais, je mets toutes les... C'est tout de mettre toutes les chances de mon côté pour être le plus en forme possible et de réapprendre à être en forme, d'avoir du plaisir.
Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui essayent d'arrêter de fumer parce que c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai jamais fumé, mais...
Ah non, c'est très dur.
Mais c'est prouvé, là, c'est aussi dur qu'une drogue dure,
ah, absolument,
arrêter de fumer, là. Donc, mais ton meilleur conseil, même si on sait qu'il n'y a pas une façon d'arrêter de fumer, ton meilleur conseil pour arrêter,
c'est... Ben, moi, je pense que là, c'est sûr que là, les gens, ils disent, bon, il fait des ultramarathons, puis arrêtez avec ça. J'ai pas arrêté avec les ultramarathons, mais j'ai arrêté avec la course. Là, les ultras, ça a été un autre niveau que j'ai voulu atteindre. Moi, je pense que d'arrêter de fumer, faut que tu fasses quelque chose de physique. Faut que tu t'engages dans une activité qui va te plaire, qui va t'allumer, qui va te faire sentir bien. Alors oui, il y a la course, il y a la natation, c'est la natation qui t'allume, le vélo, la marche en forêt ou les cours de yoga chaud. De trouver quelque chose qui... Tu vas avoir un but dans ta journée de dire, OK, là, ben à soir, j'ai mon cours ou demain matin, je m'en vais courir. Moi, c'était ça, là. Je me réveillais la nuit à 3 heures du matin, là, puis j'avais le goût de fumer, j'avais des crises, puis je me disais...
Ah oui?
Je m'en... Oh oui. Puis là, je faisais, OK, je m'en... À 5 heures, là, je me lève, puis je vais courir. Puis je me levais, puis j'allais courir. Bon, là, moi, c'est un peu extrême, mais je pense qu'il y a de ça, tu sais, il y a de... Tu sais, tu payes pour un cours, puis là, pas aller au gym. On le sait qu'on arrive en janvier, on s'achète des abonnements au gym pendant... On peut y aller au gym si on aime ça, mais... S'acheter un abonnement au gym, on paye ça 600, 700, 800, des fois 1000 piastres, puis on y va un mois, puis après ça, c'est fini. Quelque chose, une activité vraiment qu'on a envie de faire, qui nous allume, puis qu'on va... mettons, c'est les cours de yoga le soir, ben tu sais qu'à 7 heures, tu as ta classe de yoga. Ça fait que le midi, là, puis yoga chaud, là, c'est, moi, je l'ai fait, puis ça c'est rough, là. Fait que, tu sais, si tu prends quelque chose qui va te challenger... Ben, quand t'as une crise de cigarette dans l'après-midi, tu fais non, j'ai quelque chose, moi, à soir, là, j'ai mon cours, là, puis je vais être en forme, je vais pas avoir l'air fou. Puis... Je pense que physiquement, il faut que tu t'engages dans quelque chose.
As-tu encore le goût, des fois?
Non, plus du tout. J'étais allé, on est allé en Thaïlande là, pendant les fêtes, trois semaines, puis on a arrêté à Doha, au Qatar, puis dans l'aéroport là-bas qui est magnifique. Mais ils ont encore des aquariums. J'appelle ça des aquariums.
Ouais. Et tes voix fumées,
là. Ils sont toutes là en gang, debout, en train de fumer, puis pas en tout. Puis en Thaïlande, ça fume quand même pas mal. Non, pas du tout.
On est avec Patrice Godin, le comédien. Patrice, écoute, je me souviens d'un discours que tu as fait aux Gémeaux. Je pense que c'était en septembre dernier où tu as dit... Mais tu as reçu un trophée, bravo d'ailleurs.
Merci.
Et tu as dit... Je pense que tu t'adressais à Luc Dionne, l'auteur de District 31, et tu as dit « Grâce à toi, il y a 2 millions de Québécois qui me détestent. Merci. » Mais écoute, je sais qu'une carrière de comédien et de comédienne, c'est fait de haut et de bas.
Ouais.
Souvent des bas, des passages à vide, etc. Tu sais, il faut être extrêmement résilient. Ça a changé ta vie.
Ben, ce rôle-là. En fait, je pourrais dire que Luc, il m'a amené dans deux endroits où que j'avais pas comme acteur, dans lesquels j'avais pas joué. Dans Blue Moon, où j'ai fait le rôle de Bob Ryan, qui est un ancien gars qu'on peut deviner des forces spéciales, qui au début avait l'air d'un gros méchant, puis qui finalement est un protecteur. Il était vraiment un gars qui veut sauver les gens, qui veut faire le bien. Et après ça, ben Yannick, qui a parti la série de la troisième saison de District 31 comme un bon enquêteur que tout le monde aime, puis qui a fini comme étant le pire des pires.
Tu dois ajouter qu'on voit moins Patrice, on le voit encore des fois dans District 31, mais on le voit vraiment moins, puis tu me manques beaucoup. Moi, ben, écoute, je pense que le souhait du Québec, ce serait de pouvoir te revoir d'une façon régulière dans District 31. Est-ce qu'il te manque, Yannick Dubois? Est-ce que tu t'ennuies de lui?
Je m'ennuie de jouer ça. Oui, j'ai fait des petites scènes cette année là. Puis en même temps, je le comprends. Tu sais, il est tellement rendu méchant. J'étais en prison. Je suis tellement que tu sais, moi je vois pas. Luc, c'est un magicien là. Je sais pas ce qu'il peut faire, mais en tout cas, il a son idée derrière la tête. Oui, je m'ennuie de Yannick. Puis je m'ennuie de la gang parce que c'est mes chums qui sont dans le District 31. Puis Michel, Sébastien, Vincent, Guillaume, Geneviève, toute la gang me manque. l'équipe technique aussi qui est parce que c'est une équipe qui est rodée au quart de tour, qui roule, puis c'est vraiment le fun de faire partie de cette gang-là.
C'est drôle parce que j'ai vu Prière de ne pas envoyer de fleurs de Sébastien Delorme, puis vous avez fait un gag avec Sébastien, c'était le club des beaux gars.
Ouais.
Et puis, fait que t'étais dans le club des beaux gars. Est-ce que t'as eu peur à un moment donné dans ta carrière de te faire catégoriser comme ça, comme un beau gars ou
il y a des choses pires dans la vie là. Que, un beau gars. Ben oui, parce que puis à un moment donné, j'avais l'impression que c'était un peu ça, tu sais, qu'on me voyait pas, on pouvait pas voir. Plus loin que ça, plus loin que ce look-là. Ça m'a fait peur fin des années 90, début 2000. Puis après ça, j'ai eu... après Destiny, j'ai vraiment eu une période creuse. Puis on dirait que j'ai vieilli aussi, ma face a changé. J'ai pris de la maturité aussi. Puis je suis content qu'on m'ait amené ailleurs. Là, t'sais, parce que c'est sûr que c'est facile de... Les castings ici, on tourne tellement rapidement, puis on a des super bons acteurs, des super bonnes actrices, mais c'est sûr que de dire, OK, lui est bon là-dedans, elle est bonne là-dedans, fait qu'on est souvent casté dans... Puis c'est le même aux États-Unis aussi, puis en Europe, là.
Pourquoi tu voulais être comédien?
Je voulais faire du cinéma. Moi, c'était vraiment le cinéma qui m'allumait quand j'étais jeune. Puis c'est ça qui ressortait. J'ai pensé faire bien des affaires, mais... Je revenais tout le temps vers ça. C'était tout le temps l'espèce de passion que j'avais du cinéma qui m'allumait. Puis là, ben j'ai fait ici au Québec. Là, j'en ai pas fait tant que ça. Je fais beaucoup de télé. Mais ouais, c'est vraiment ça.
Ah ben, fait qu'on pourrait te changer de casting puis t'envoyer justement vers quelque chose de plus cinématographique. Est-ce que tu aurais peur de rester accroché avec le Yannick Dubo qui a tant marqué le Québec? T'sais, des fois, il y a des gens qui ont joué des rôles puis on dirait que c'est devenu plus grand qu'eux-mêmes.
Moi, honnêtement, non, j'ai pas. Ben, j'espère avoir le talent pour outrepasser ça. J'ai tourné la série Mon Fils l'été dernier où je fais avec Élise Guilbeault. On est un couple qui leur fils de 17 ans fait de la schizophrénie, développe la schizophrénie. Puis on est vraiment ailleurs. Dans une autre histoire, je joue complètement d'autres choses.
Oui, tu semi-French, Marina Orsini.
Pas juste semi-French. on a passé une autre étape.
Vous partagez Marina Orsini dans vos carrières.
Ben oui, moi aussi, j'ai eu une relation avec Marina, relation professionnelle, évidemment. Deuxième chance. Écoute, on va prendre une pause. On va te garder, Patrice Godin, pour la pause. Et on va terminer l'émission avec toi et Catherine Beauchamp. Il est 18h15. De retour en studio pour les dernières minutes de l'émission avec Catherine Beauchamp et notre invité, Patrice Godin, le comédien. On a parlé tantôt de cigarettes, on a parlé de District 31. Patrice, tu l'as dit tantôt, tu as trois filles.
Oui.
OK, la plus vieille a 17 ans, je pense.
17 ans, 15 ans, 10 ans.
Parfait.
Presque 11.
On parle beaucoup au Québec là, de violence contre les femmes. Il y a des prises de conscience. Il y a eu les 30 ans de Polytechnique en décembre. Il y a eu des féminicides épouvantables avant Noël. C'était pas les premiers. On espère que ce sera les derniers, mais on le sait, là, ça risque de pas être les derniers. Tu as trois filles. C'est quoi ton regard là-dessus sur la violence faite aux femmes?
Ben écoute, d'abord, tantôt, tu as lu une nouvelle, puis là, tu me diras si j'ai bien compris. Le gars, il a tué sa femme en 2004,
oui.
Puis là, il vient de poignarder une autre fille. Là.
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait dehors?
Il est en semi-liberté.
Ah, c'est ça. Ben voilà. Là, c'est déjà là un problème pour moi. Là. Moi, je peux pas comprendre qu'un homme poignarde sa femme, puis ça fait quoi?
Un jour,
2004, ça fait...
16 ans.
16 ans?
Oui.
Puis là, il est en liberté, puis il a encore tué quelqu'un. Non, ça, pour moi, c'est inadmissible. Il y a quelque chose qui se passe au niveau des criminels qui n'a aucun sens, qui fait aucun sens. Des Guy Turcotte qui ont là, il est retourné, mais il est sorti. Ça fait pas de sens. Moi, écoute, mes filles, moi, je voulais des filles.
Okay.
Je suis super content d'avoir trois filles. J'ai des super bonnes filles, des filles qui sont matures, qui font pas de niaiseries. Ils en font, mais pas rien de majeur, pas rien de... T'sais, moi, si je me compare à moi, là, ce que je faisais à leur âge, là, oh boy, je veux pas, peut-être qu'ils m'écoutent, là, je dirais rien, mais oui. j'ai des bonnes filles qui ont des bons chums, ils sont allés vers des bons gars, là, mes deux grandes ont des chums, puis c'est deux bons petits gars, je dirais pas petits gars, excusez-moi les boys, c'est deux bons gars, oui. Super gentils, attentionnés, qui sont avec elles. Moi, j'ai confiance en mes filles, puis il faut que je fasse confiance en la vie, j'ai pas le choix.
Mais y a-tu une peur... Tu crois que tu as par rapport à l'avenir de tes filles puis des relations qu'elles vont développer que tu n'aurais pas si tu avais des gars?
Ben, c'est sûr qu'avec des gars, tout le rapport de et les gars vont sortir puis ils vont rentrer tout seuls la nuit, ça me ferait moins peur. Moi, il est pas question que Julia, si elle était 3h du matin puis qu'elle veut revenir, appelle-moi, je vais y aller te chercher, ça me dérange pas. Les gars, tu sais, j'aurais plus peur dans le sens de prendre l'auto avec le qu'un verre dans le nez ou des affaires comme ça, oui, là, tu sais. Oui, mais oui. Des agressions, c'est sûr qu'avec des gars, ça serait moins derrière ma tête. Avec les filles, c'est plus problématique. J'aurais aimé ça que mes filles fassent des arts martiaux plus jeunes. Ils ont essayé, ils n'ont pas aimé ça. Puis je suis pas du genre à essayer mais de leur...
Tu peux pas les forcer.
Ben non, c'est ça. Fait qu'ils font d'autres sports, mais...
Quand tu jouais Yannick Dubois, est-ce que tu pensais à ça? Parce que tu t'es quand même séquestré une femme dans une fiction, là. Mais, ouais. Mais tu disais que c'était pas facile à jouer, déjà.
Ben, c'était troublant, tu sais. Je veux dire, quand on joue le... Quand j'ai tué le personnage de Sophie Desmarais, Charlène, j'ai trouvé ça rough. Puis toute la semaine, ça m'a habité, justement, parce que... Puis je rêvais à ça, je rêvais que Yannick tuait, ou des fois je me disais, quand j'ai reçu les textes le mercredi soir, j'ai donné un drink, puis là tu disais est-ce qu'il y a-tu, y a-tu pas, puis là quand j'allais lire le texte du jeudi, ben j'espérais que Luc ait changé d'idée. Puis là quand j'ai lu que je l'avais tué, j'ai fait « Ah, oh, man, je l'ai tué là-dessus, puis je l'enterre. » Puis il y a des gens qui font ça pour... Moi, je trouvais
ça... en lisant ça...
Ah, ça me troublait.
T'as pas aimé ça.
Ben, ça me troublait. Pas que j'ai pas, tu sais, dans l'intrigue, je trouvais ça intéressant. C'était bien plus fun qu'on s'en aille là-dedans, que tout d'un coup, le jeudi soir, tu fais comme, ils se réveillent les deux ensemble, puis écoute, je vais te libérer, puis blablabla, puis qu'il y a des petits papillons qui se mettent à voler, puis, tu sais, on est dans une série réaliste le plus possible.
Mais il faut que tu réveilles une fibre que t'as déjà en toi.
Oui, puis il y a comme un, mais tu sais, c'était, j'ai trouvé ça tough à faire, mais en même temps, après ça, toutes les scènes de... C'est ça qui est embêtant quand tu joues ces rôles-là, parce que c'est le fun à faire. Là, les... Mais tout de suite, après, quand je tournais les scènes, avec Charlotte Legault aussi, où elle pleurait, puis je disais, oh, t'es belle petite larme, puis je la flattais, puis je l'échais quasiment en face. Mais après, je la serrais dans mes bras, puis je faisais... Je t'aime, là, c'est pour moi, là, tu sais. Moi, j'avais besoin
quand,
de leur dire...
Attends, quand tu dis « après », quand on criait « coupé ».
Ouais, quand c'est coupé, là...
OK, tu sentais le besoin de dire
ben,
« hey,
moi,
let's
je faisais
go,
comme
hey,
« OK, mais... »
Je suis plus t'sais... du beau, là, je suis Patrice.
Non, c'est ça. Puis les filles, les filles aussi sont professionnelles, puis on part à rire, puis on...
Mais pourquoi ce besoin-là, tu penses?
Pour casser ça.
OK.
Parce que moi, j'aime... Puis je suis pas quelqu'un qui va rester avec le personnage. Je rentre pas à la maison avec mon personnage, j'ai une chance, avec Yannick, ça pas été drôle. mais pour casser sur le coup, là, faire des jokes, casser ça... Puis même, tu sais, quand on répétait, là, on répète pas des masses, mais de le faire un peu froidement, là, comme sans trop. Puis là, quand tu rentres dedans, ben là, tu donnes le jus, puis après c'est out.
Et je pense qu'il nous reste 2 minutes, mais tu vas commencer à nous parler de survivalistes, puis on va finir ça au téléphone quand le show va commencer à t'aider.
Oui, t'as une série sur les survivalistes.
Sur les survivalistes, documentaire que j'anime. C'était fascinant. J'étais très content qu'on m'offre cette opportunité-là d'être pour la première fois animateur. D'un sujet qui me fascine, qui me touche, parce que moi j'ai grandi à la campagne, ça fait que j'ai un peu joué avec le côté trappeur, chasseur quand j'étais jeune, et ça a toujours quelque chose qui me plaisait. Et là, dans l'idée de la survie, bon, c'est intéressant de se préparer pour des catastrophes de petite envergure. Là, quand je parle de catastrophes, panne de courant, ça arrive, c'est quand même assez régulier avec les températures qu'on connaît. D'être prêt 72 heures, moi j'irais jusqu'à une semaine à se débrouiller tout seul sans avoir besoin d'aide. Mais eux autres, ça va plus loin.
Mais pour cette série-là, à moi et compagnie, là, qui s'intitule Survivaliste, tu vas voir des gens, dans le fond, qui, eux, sont prêts.
Prêts à tout.
Ils sont prêts à l'écroulement de la société.
Il y en a qui sont prêts à ça. Il y en a qui sont plus. Tu sais, il y a différents degrés. On a vraiment un monsieur, un Américain qui vit dans le nord de Toronto, qui lui a un bunker. Lui, depuis la guerre, la crise des missiles dans les années 60 avec les États-Unis, puis lui, il a décidé, moi, je construis un bunker, puis tout, fait qu'il y a 47 autobus enterrés.
Mais voyons donc.
Ah ouais, non, c'est fascinant.
Il a fait enterrer 47
là, le monsieur,
autobus.
Il a 85 ans. Ouais, il y a un terrain, en tout cas, si vous allez voir, c'est fascinant. Mais lui, il se prépare à l'effondrement de la société, puis il veut la reconstruire après.
OK. Mais c'est ça, t'as dû voir des personnages.
Ça, là. Celui-là, c'est l'extrême extrême. Après ça, t'as des gens qui se préparent à différents degrés à ce que, justement, il y a un attentat terroriste sur le réseau électrique. Là, tout pète, puis qu'il n'y a plus rien pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Ben ça va aller mal. Alors, t'en as qui sont prêts à ça. Puis t'en as qui se préparent, comme moi, j'ai un peu envie de me préparer, avoir une maison à campagne où je peux me chauffer avec un feu de bois, avoir un peu de réserve. Rien de fou, là, rien de...
Mais
il y en a qui
mais
sont...
Mais autonome un peu.
Mais autonome pour, mettons, une semaine.
As-tu pris des notes? Es-tu capable de débrouiller un peu plus longtemps?
Ben moi, je suis capable de... Oui, j'ai quand même des petites bases comme ça, mais j'ai appris des affaires, puis il y a des trucs qui font réfléchir.
On fascinant. Va t'en
parler. Ben écoute, on a hâte de voir tes débuts à l'animation, Patrice Godin. All right, bonne chance avec ça. Merci de venir nous voir en studio.
Ben, c'est un plaisir. Merci.
Vraiment intéressant.
Merci à vous.
Merci, Catherine Beauchamp, 18h26. Merci d'avoir été là. Je vous laisse aux bons soins, aux excellents soins de Mario Langlois et des amateurs de sport. Ben, écoutez, c'était Patrick Lagacé pour le Québec maintenant. Bonne soirée.